Chapitre 42. Très progressivement, Callan prit conscience du bourdonnement de voix tout autour d'elle. On eût dit que la source de cette nuisance sonore était à la fois proche et lointaine, comme si les sons montaient de plusieurs foyers. Mais dans son état, la prisonnière n'aurait su dire si c'était réel ou si son imagination lui jouait des tours. En revanche, elle savait parfaitement que les images qui défilaient dans sa tête n'étaient que des fantasmes. On ne pouvait pas être en même temps dans une plaine semée de fleurs, sous un firmament étoilé, et au milieu d'un champ de bataille où des soldats morts-vivants montés sur des chevaux fantômes s'affrontaient à grands coups d'épées de lumière. Dans le même ordre d'idées, il était impossible de fendre les nuages sur le dos d'un dragon rouge, n'est-ce pas? Même si tout ça lui semblait réel, c'était une succession d'illusions. Pour commencer, les dragons n'existaient pas, à part dans les légendes. Quant aux voix qu'elle entendait, eh bien, si c'en était vraiment, elle ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait. Si fort qu'elle essaie, il était impossible de donner un sens à des sons si fragmentés et si aigus qu'ils la faisaient grincer des dents. Au rayon des certitudes, une chiche collecte par les temps qui couraient, Callan pouvait ranger la terrifiante migraine qui lui donnait l'impression à chaque pulsation que sa tête allait exploser. Entre les pics de douleur, la nausée prenait le relais presque aussi insupportable. Pourtant, elle devenait totalement insignifiante dès que la souffrance repartait à l'assaut. Impossible d'ouvrir les yeux, même en mobilisant tout ce qui lui restait d'énergie. De toute façon, elle redoutait les tourments que ne manquerait pas de lui valoir la lumière s'il y en avait autour d'elle. On aurait juré qu'une force invisible immobilisait Callan, tandis qu'une autre, plus subtile et perverse, la torturait de l'intérieur. Désirant échapper à ces deux tortionnaires, la prisonnière voulut plier les bras, mais ils se révélèrent bien trop raides pour lui obéir, et il en alla de même lorsqu'elle tenta de bouger un genou ou de lever un pied. Son corps tout entier était englué dans elle ne savait quel piège. Un son, peut-être une insulte, la fit sursauter, la propulsant très près du niveau de conscience où elle aurait pu légitimement se tenir pour éveiller. Comme lorsqu'on était tombé à l'eau, revenir vers la surface de la vie exigeait des efforts surhumains. Mais Callan avait maintenant une sorte de bouée de sauvetage. Certaine que c'était bien des voix qu'elle entendait, elle parvenait à comprendre un mot ou deux de temps en temps. Comme la corde qu'on jette à un naufragé, ces mots l'aidèrent à se hisser hors de l'océan paisible et mortel de l'inconscience. Se concentrant pour réguler sa respiration, Callan parvint peu à peu à repousser à l'arrière-plan les pulsations meurtrières de sa migraine. Encore un effort, et elle comprendrait des phrases entières de la conversation qui se tenait non loin d'elle. Déjà, elle avait identifié plusieurs voix de femme et celle d'un homme, pas du genre commode si elle en jugeait par son ton. Très vite, hélas, la douleur d'un corps éveillé devint plus pénible à supporter que les tourments oniriques subis par Callan alors qu'elle dérivait dans l'inconscience. Impitoyable, la réalité ajoutait à la souffrance une qualité incontournable. Une fois dans le monde matériel, on ne pouvait plus échapper à ses malheurs, ne serait-ce qu'une seconde. Avec l'espoir futile que ça la soulagerait, Callan se força à entr'ouvrir les yeux, juste le temps de regarder autour d'elle, histoire de savoir où elle était. À première vue, elle se trouvait sous une tente, non, un pavillon, c'était le mot exact pour une structure si vaste. L'espace semblait être divisé en pièces par de riches tentures. Callan reposait sur d'épaisses fourrures qu'on avait dû poser sur une sorte d'estrade, car elle n'était pas au niveau du sol. Avec la chaleur ambiante, le contact des poils la faisait transpirer d'abondance. Par bonheur, on n'avait pas cru bon de l'ensevelir sous des couvertures. Mais l'avait-on placée là pour éviter qu'on lui marche dessus, comme si elle était un objet précieux? En face d'elle, la prisonnière vit qu'on avait disposé un grand fauteuil au dos délicatement sculpté. Pour l'instant, le siège était vide. Des lampes reposaient sur les guéridons et les coffres et d'autres pendaient au plafond. Trop faible, leur lumière ne parvenait pas à percer vraiment la pénombre. Au moins, l'odeur de l'huile brûlée parvenait à couvrir presque totalement la puanteur de la sueur, des chevaux et du fumier. Satisfaite que la lumière ne lui blesse pas les yeux, contrairement à ce qu'elle redoutait, Callan continua à explorer sa prison. Tel un fantôme qui ne parvient plus à retrouver sa tombe, une des sœurs faisait les 100 pas à la chiche lueur des lampes. Des sons étouffés arrivaient jusqu'aux oreilles de Callan. On eût dit qu'une cité entière entourait sa prison de toile. Mais la prisonnière savait qu'elle était au milieu d'un camp militaire. Presque toutes les voix étaient masculines, un détail qui ne trompait pas, et on n'entendait nulle part ailleurs ce mélange caractéristique de cris, de rires, de cliquetis métalliques et de grognements d'animaux. Callan savait de quelle armée il s'agissait. Elle avait aperçu de ci, de là, en chemin, et avait souvent traversé des villes mises à sac par les soudards de l'ordre. Tout compte fait, elle n'était pas si mal sous le pavillon, et elle refuserait d'en sortir tant qu'on ne l'y contraindrait pas. S'apercevant soudain que l'empereur Jagang la regardait tout en conversant avec les deux sœurs survivantes, Callan décida de ne pas montrer qu'elle était réveillée. Mordant à l'hameçon, le maître de l'ordre braqua les yeux sur Ulyssia qui continuait à marcher de long en large.
« Ça ne peut pas être si simple, » dit Armina.
Assise à une table, elle défiait Ulyssia du regard. C'était facile maintenant qu'elle n'avait plus le pouvoir. Un livre était posé sur la table, juste devant Armina.
« Ma petite chérie, » dit Jagang à la complice d'Ulyssia, « sais-tu à quel point il est amusant pour moi d'être dans l'esprit d'une sœur indisciplinée qui vient d'être condamnée à 1 mois de service sous les tentes ?»
Armina devint blanche comme un linge.
« Non, Excellence, je n'en ai aucune idée. »
« Tu veux que je t'en parle? Que je te décrive mon excitation quand des brutes déchirent les vêtements de la fautive et la plaquent sur le sol, lui écartant les cuisses de force? Tu désires savoir ce que ça fait d'être besogné par des guerriers qui n'ont même plus conscience d'avoir affaire à un être humain? Mes soldats n'ont aucune sympathie pour les magiciennes, y compris celles qui ont choisi notre camp. » Les torturer n'est pas susceptible de leur valoir des tourments de conscience, tu peux me croire. Pour ma part, j'adore assister au châtiment des crétines qui osent me prendre à rebrousse-poil. C'est ce que tu essaies de faire, Armina ?
Folle de panique, la sœur répondit d'une voix à peine audible.
« Je vous jure que non, Excellence. »
« Dans ce cas, cesse de proférer des âneries auxquelles tu ne crois pas. Oui. » Cesse de dire ce que j'ai envie d'entendre selon toi. Je me fiche qu'on me lèche les bottes, espèce d'idiote. Dans mon lit, je veux bien qu'on tente de m'amadouer en se montrant servile, et tant pis si ça ne marche pas. Mais pour le reste, seule la franchise et la vérité m'intéressent. Tes arguments calculés pour me plaire ne nous aideront pas à réussir. Pour cela, il nous faut connaître la vérité. Si tu crois avoir à dire quelque chose d'utile, n'hésite pas. Sinon, cesse d'interrompre Ulyssia avec des objections calibrées pour me satisfaire. C'est compris ? Ou attends-toi pour très bientôt à un long séjour sous les tentes. Tu m'as bien entendu ?
Oui, Excellence.
Souffla Armina, les yeux humblement baissés. Jagang se tourna vers Ulyssia qui prit une grande inspiration et désigna le livre posé sur la table.
« Si vous voulez de la franchise, Excellence, sachez que nous n'avons aucun moyen de confirmer ou d'infirmer l'authenticité du texte. Nous essayons depuis des heures, parce que c'est ce que vous attendez de nous, mais nous n'avons pas avancé d'un pouce. »«
Et pourquoi ça ?»«
Quand l'ouvrage recommande de placer les boîtes face au nord, comment savoir si c'est un piège ?» Si l'indication est fausse, nous perdrons tout en la mettant en application. Si elle est vraie, ne pas la respecter entraînera notre destruction. Excellence, comment trancher ? Nous avons lu et relu le grimoire pour évaluer sa fiabilité, mais ça n'a servi à rien. Un chef de votre qualité ne peut exiger que ses subordonnés mentent pour lui faire plaisir. Dire la vérité, c'est vous être fidèle au-delà de ce que vous croyez possible, Excellence.
Ulyssia. « Souviens-toi de ce que j'ai dit à Armina au sujet des lécheurs de bottes. Je ne suis pas d'humeur à me faire flagorner. »«
Loin de moi cette intention, Excellence. »
Croisant les bras sur sa poitrine musclée, l'empereur repassa aux préoccupations du jour.
« Si je comprends bien, tu penses que celui qui a fait les copies ne nous a pas laissé par hasard un autre moyen de distinguer le vrai du faux ?
Exactement, Excellence, souffla Ulyssia.
Même si elle savait que cette idée déplaisait à Jagang, la sœur de l'obscurité ne devait surtout pas tenter de la dissimuler. Étant présent dans son esprit, l'empereur pouvait déjouer n'importe quel mensonge. Pour ne pas s'exposer à son courroux, Ulyssia avait intérêt à rester le plus près possible de ce qu'elle pensait et croyait pour de bon. Loin d'être idiote, elle avait compris à quel jeu il lui fallait jouer, et elle s'en sortait fort bien.
« Donc, reprit l'empereur, selon toi, il ne s'agit pas d'une coquille. C'est une indication, un signal conçu pour alerter le lecteur. »
« Oui, Excellence. Il fallait bien prévoir une balise de ce genre. Sinon, comment choisir entre les copies ? Quand l'enjeu est si élevé, on ne peut pas laisser les choses au hasard. Les boîtes d'Orden ont pour destination de... »
Ulyssia s'interrompit et jeta un coup d'œil à Kalan, qui ne bougea pas d'un pouce, les yeux à peine ouverts, afin que sa geôlière ne voie pas qu'elle était réveillée. Tombant dans le piège, Ulyssia se tourna de nouveau vers l'empereur.
« Les boîtes d'Orden ont pour destination de faire face à une situation désespérée, nous le savons tous. Sans moyen d'authentifier le grimoire, toute personne qui se risque à les utiliser peut provoquer sa propre fin et celle de tout ce qui lui tient à cœur. Or, c'est pour sauver tout cela qu'on remet dans le jeu les boîtes d'Orden. Dans ce contexte, se référer au mauvais livre est un risque inacceptable, car cette erreur suffit à saboter tout le protocole magique.
« Certes, admit Jagang, mais les copies défectueuses avaient peut-être pour seule fonction d'abuser les voleurs et les aventuriers de tout poil.
Excellence, dans tous les cas, les créateurs des boîtes avaient besoin d'un moyen fiable d'identifier les mauvaises copies. S'ils n'avaient pas légué une méthode sûre à leurs descendants, ils les auraient condamnés à vivre ou mourir sur un coup de dé, rien de plus. Les copies ne peuvent pas être toutes fausses. Elles furent faites parce qu'on ne pouvait pas se fier à un seul grimoire. Après tout, et sans même parler de manœuvres malveillantes, l'ouvrage aurait pu être détruit par le feu, l'eau ou on ne sait quelle autre catastrophe naturelle. Si le volume original disparaissait, il fallait qu'une copie exacte puisse prendre le relais. Les autres étaient là pour servir de leurre, je veux bien l'admettre, mais elles jouaient aussi le rôle de l'arbre qui cache la forêt. Me suivez-vous, Excellence ? Réaliser une seule copie exacte et plusieurs fausses était un moyen d'éviter que les mauvaises personnes utilisent les boîtes d'Orden. En d'autres termes, ça revenait à compliquer la tâche de tous les usurpateurs. Mais s'il devenait impératif de remettre les boîtes dans le jeu, il fallait éviter à tout prix que l'avenir du monde se joue à pile ou face. Pour ça, il était nécessaire de marquer les fausses copies. Mais comment procéder ? En altérant le texte ? Bien sûr que non, puisque personne n'était censé le connaître. En revanche, l'étrange faute sur le titre pouvait apparaître à n'importe qui.
Jagang se tourna soudain vers Armina.
« Sur cette question, tu as beaucoup à dire, si j'ai bien compris. Nous t'écoutons, ma petite chérie. »
La sœur se racla la gorge avant de se jeter à l'eau.
On nous demande de croire qu'une coquille, dans un titre, permet de déterminer l'authenticité d'un grimoire ? Un pauvre petit P à la place d'un C, et l'affaire serait entendue ? Excellence, je souscris à l'analyse globale d'Ulyssia, mais sur ce point précis, je ne la suivrai pas. C'est une réponse bien trop simple à un problème d'une incroyable complexité. Et tout se réduirait à une faute de composition sans aucun autre garde-fou ?
« Ne le vois-tu pas, ton garde-fou ? On en parle depuis le début du grimoire, sans la moindre ambiguïté possible. Quelqu'un de bien précis est censé vérifier la véracité du texte.
N'importe qui aurait pu voir cette coquille. Tout ça ne tient pas debout. » « N'importe qui ? Vraiment ? Dans ce cas, pourquoi ne l'as-tu pas vu, Armina ?»
Ulyssia désigna Kalan, qui plissa davantage les yeux pour ne pas se trahir.
« Elle a vu l'erreur. Contrairement à nous deux et même à son excellence, elle seule a vu. Sans elle, nous n'aurions pas remarqué la coquille, ou nous l'aurions jugée sans importance, pensant qu'il s'agissait d'une bourde du relieur. Elle a rempli la mission que lui affectait le grimoire. À partir du titre erroné, elle a affirmé que ce n'était pas une copie fiable. N'est-ce pas exactement la fonction qu'elle doit remplir, selon le grimoire? Quelques beaux esprits peuvent estimer qu'une coquille ne peut pas être la clé de tout, mais c'est d'une stupidité crasse. Le grimoire nous annonce qu'une certaine personne doit vérifier la véracité du texte. Cette personne a vu la copie et elle a donné son verdict. C'est tout ce qui compte. Nous devons nous fier à ce résultat.
Pesant les arguments des deux sœurs, Jagang se massa lentement la nuque, puis il baissa les yeux sur le grimoire, le regarda un moment et lâcha.
Il y a un seul moyen d'être sûr. Trouvez les autres copies et les comparer. Si la coquille figure sur tous les dos, nous saurons qu'elle n'a aucun sens. Idem si on la trouve sur la moitié des volumes, par exemple. En revanche, si un seul titre est exact, il s'agira à coup sûr de l'unique copie authentique. Ensuite, nous compilerons les textes et si nous trouvons des différences, nous saurons qu'une seule version est fiable.
« Excellence, » dit Armina, toujours encline à la servilité, « c'est une formidable idée. Si nous trouvons les autres livres et qu'un seul titre soit erroné, ça prouvera ma thèse de l'erreur sans signification d'un crétin d'artisan. »
Jagang dévisagea longuement la sœur, puis il se détourna, s'approcha d'un coffre, l'ouvrit et en sortit un livre qu'il jeta sur la table, le titre vers le haut. Armina s'en empara, lut les quelques mots et devint rouge comme une pivoine.
« Le grimoire des ombres repensées, »
lut-elle à haute voix.
« Repensées ?»
demanda Ulyssia, retournant le couteau dans la plaie.
« Pas recensé ?»«
La coquille est présente, » dit Jagang, « comme sur la copie trouvée à Casca. »
« Mais,
bredouilla Armina,
« je ne comprends pas. D'où vient cette copie ?»«
Du palais des prophètes, »
annonça Jagang avec un rictus mauvais. Armina en eut la chic coupée.
« Quoi ? »
s'écria Ulyssia.
« C'est impossible. Vous en êtes sûr ?»«
Si j'en suis sûr, sûr et certain, oui. » « Je détiens cet ouvrage depuis pas mal de temps, et c'est en partie à cause de lui que je vous ai laissé la bride sur le cou, bande d'idiotes. Je savais que la femme que vous traquiez m'apprendrait si c'était ou non la bonne copie. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais remarqué la coquille dans le titre. Quand on croit avoir affaire à un mot bien précis, le cerveau rectifie de lui-même, c'est bien connu. Mais notre belle endormie a vu l'erreur du premier coup d'œil.
Comment avez-vous découvert cet ouvrage au palais des prophètes?
Demanda Ulyssia.
Très récemment, nous avons appris l'existence d'une crypte sous les catacombes, mais avant la destruction du palais, nul ne savait que...
Jagang eut un sourire plein de patience, comme s'il donnait un cours à des enfants.
Tu te crois si intelligente, Ulyssia? Tout ça parce que tu as appris l'existence des boîtes, du grimoire et de la personne requise pour vérifier le texte. Mais je sais tout ça depuis des décennies. Pour le bien de ma cause, voilà longtemps que je m'introduis dans les esprits. Tu serais stupéfié par tout ce que j'ai appris. Pendant que les sœurs se disputaient dans leur palais, faisant les yeux doux au créateur ou au gardien selon les cas, je luttais pour unifier l'ancien monde et le faire défiler sous la bannière de l'ordre impérial, l'unique cause qui honore pour de bon le Créateur et offre une chance de salut à l'humanité. Pendant que vous formiez de jeunes sorciers, je m'échinais à leur montrer la véritable lumière. À votre insu, beaucoup de ces jeunes gens devinrent des disciples de la confrérie de l'ordre et se consacrèrent corps et âme au salut de l'humanité. Des siècles durant, ils ont arpenté les couloirs du palais des prophètes sous votre nez, des espions que vous preniez pour vous protéger. Bien entendu, j'étais dans leur esprit chaque fois qu'ils lisaient un des grimoires secrets conservés dans vos catacombes. Grâce à mon pouvoir, j'ai pu guider leurs études. Sachant ce que je cherchais, je les ai lancés sur la piste. Et ils n'ont pas été longs à trouver l'entrée de la crypte, du site central, si vous préférez. La trappe se trouvait dans un entrepôt abandonné, près des écuries. Amusant, n'est-ce pas? Mes braves petits soldats ont volé ce livre et d'autres volumes tout aussi précieux. Lorsque l'ancien monde fut enfin unifié, il me fut facile de venir au palais et de prendre possession de ce trésor. Je détiens cette copie du grimoire depuis des décennies.
Hélas, j'ignorais comment traverser la barrière afin de pouvoir mettre la main sur la boîte et sur le moyen de vérification. Sans les âneries des Sœurs de la Lumière, j'en serais encore là.
Mais la capture de Richard entraîna assez vite la destruction de la barrière. Le palais étant détruit, j'ai bien peur que la crypte et les ouvrages qu'elle contenait encore soient à jamais perdus. Mais, grâce à mes espions, j'ai lu pratiquement tous ces inestimables volumes. Si le palais, ses catacombes et sa crypte n'existent plus, le savoir n'est pas perdu pour tout le monde. D'autant moins que nombre de mes petits soldats, une fois devenus grands, se sont engagés dans les rangs de l'ordre.
Pauvre crétine d'Ulyssia! Quand je t'ai vu mettre au point un plan visant à capturer la mère inquisitrice, j'ai mesuré tout le parti que je pouvais en tirer. Du coup, je t'ai laissé travailler pour moi. Aujourd'hui, j'ai le grimoire et la mère inquisitrice qui s'assurera de sa véracité.
Les deux sœurs en restèrent bouche bée.
Mère inquisitrice ?
Répéta mentalement Callan.
C'était son titre ? Mais par les esprits du bien, qu'est-ce que ça voulait dire ?
Ravi d'avoir ridiculisé les deux sœurs, Jagang les gratifia d'un rictus méprisant.
« Je vous ai bien roulé dans la farine, pas vrai ?»«
Oui, Excellence, »
soufflèrent les deux femmes d'une toute petite voix.
« Nous voilà donc en possession de deux copies du grimoire, chacune avec une coquille dans le titre, »
récapitula Jagang.
« Certes, »
dit Armina,
« mais il nous manque les autres. Que conclurons-nous si la faute se retrouve sur tous les ouvrages ?» Je doute que ça arrive,
marmonna Ulyssia.
Eh bien, dans tous les cas, nous aurons avancé. Pour l'instant, je détiens deux copies. Lorsque nous aurons les autres, la vérité sortira enfin du puits. En attendant, nous devrons garder en vie la mère inquisitrice, puisque nous ignorons si elle a vraiment découvert ce qui distingue les fausses copies de la vraie.
Et si c'est moi qui ai raison, Excellence ?
Demanda Armina.
« Nous saurons que la coquille dans le titre n'est pas le bon moyen de vérifier l'authenticité de l'ouvrage. Si l'on va ainsi, nous devrons rendre à la mère inquisitrice le pouvoir de lire le texte, afin d'éprouver sa véracité. Pour l'instant, elle est incapable de voir les mots, mais ça devra changer. »«
Excellence, »
dit Armina,
« j'ignore si une telle chose est possible. »
Jagang ne daigna pas se soucier des inquiétudes de la sœur. Lui arrachant le livre des mains, il le posa sur la table, près de l'autre copie.
« La mère inquisitrice doit vivre, parce que nous pouvons encore avoir besoin d'elle. Pour l'instant, nul ne peut dire si elle a vraiment vérifié la véracité du grimoire. Reconnaissons qu'elle a disposé de très peu d'informations, puisqu'elle ne peut pas lire le texte. Jusqu'à nouvel ordre, sa vie est sacrée. »«
Comme vous voudrez, Excellence. »
capitula Armina.
Je crois qu'elle est réveillée,
souffla Ulyssia. Écoutant avec une intense concentration, Callan avait oublié de fermer complètement les yeux au moment où Ulyssia s'était tournée vers elle. La sœur approcha, se pencha et examina la prisonnière.
ne voulant pas se trahir, d'autant moins qu'on venait de l'appeler par son titre une information qu'elle n'aurait jamais dû connaître, Callan fit mine d'émerger de l'inconscience. Bougeant imperceptiblement, elle imita à la perfection une personne qui ne réussit pas à se réveiller pour de bon. Pendant ce temps, une question tournait en boucle dans sa tête. Que pouvait bien être une mère inquisitrice?
« Où suis-je ? »
gémit-elle d'une voix volontairement pâteuse.
« Tu le découvriras bien assez vite !»
lâcha Oulicia. Elle flanqua une grande claque sur l'épaule de Callan.
« Allons, réveille-toi !»«
Que se passe-t-il ? Vous désirez quelque chose, sœur Oulicia ?»
Callan se massa les yeux avec le dos des phalanges.
« Où sommes-nous ? »
Oulicia glissa un doigt dans le collier de Callan et la força à se redresser.
Mais Jagang saisit la sœur par le poignet, l'écarta sans ménagement et se campa devant la prisonnière.
La prenant par la gorge, il la souleva du sol.
« Tu as tué deux gardes loyaux et cette idiote de Cécilia !»
dit-il, rouge de colère. On eût dit que des éclairs zébraient ses yeux noirs.
« Comment as-tu pu croire que tu t'en sortirais à bon compte ?»«
Je n'ai jamais pensé m'en sortir à bon compte !»
dit Callan, se forçant au calme. Plus elle restait impassible et plus ça énervait l'empereur. Une petite victoire morale. Jagang secoua violemment sa proie comme s'il s'était agi d'un pantin désarticulé. À la première provocation, cet homme perdait son sang-froid. Là, il était à un souffle de sombrer dans une crise de folie meurtrière. Callan n'avait aucune envie de mourir. Cela dit, une fin rapide était sans doute préférable à ce que Jagang gardait en réserve pour elle, et de toute façon, elle n'était pas en position de choisir.
« Si tu ne pensais pas t'en tirer, pourquoi as-tu quand même tué ces deux hommes ? »
« Qu'est-ce que ça change de toute façon ?»
répondit Callan, toujours en suspension au-dessus du sol.
« Que veux-tu dire ? » ?»«
Vous m'avez promis des horreurs au-delà de l'imagination, et je vous ai cru sur parole. » Pour vaincre, les gens comme vous doivent recourir à la brutalité. Comme un parfait crétin, vous m'avez averti qu'espérer était inutile. Une énorme erreur, vraiment.
Une erreur? Que racontes-tu là? De quelle erreur parles-tu?
Une erreur tactique, grand empereur de pacotille.
Énerver Jagang était en revanche une excellente stratégie, et Callan n'avait pas l'intention de s'en priver. Malgré sa position des plus inconfortables, elle parvint à continuer d'un ton égal.
« Vous m'avez fait comprendre que je n'avais rien à perdre puisque j'étais entre les griffes d'une brute inaccessible à la logique. Savoir qu'il n'y a plus d'espoir me libère de toutes les illusions qu'entretient d'habitude un prisonnier. Et au cas où vous l'ignoreriez, excellence de 4 sous, une femme désespérée en vaut 2. Pourquoi me serais-je interdit de tuer 2 soudards ? Puis de me venger enfin de Cécilia ? »
Callan sortit l'as qu'elle cachait depuis le début dans sa manche, passé au tutoiement pour exprimer tout son mépris.
« La bourde que tu as commise, Jagang l'obtus, prouve la déficience profonde de ton intellect. »
L'empereur baissa un peu le bras, juste ce qu'il fallait pour que les bottes de la prisonnière touchent de nouveau le sol.
« Tu es incroyable !»
s'extasia-t-il. Sa fureur oubliée.
Te détruire sera une merveilleuse expérience.
Je t'ai fourré le nez dans tes erreurs et voilà que tu les répètes. On dirait que tu n'apprends pas très vite.
Pendant que Jagang la tenait par la gorge en écumant de rage, Callan avait profité de sa déconcentration, l'inévitable conséquence des déchaînements émotionnels, pour subtiliser le couteau qu'il portait à la ceinture. Serrant le manche entre le pouce et l'index, elle avait réussi à dégainer la lame sans que son propriétaire le remarque. Au lieu d'exploser de colère, Jagang choisit d'éclater de rire en réponse aux insultes de la prisonnière. Le couteau bien en main, Callan frappa de toutes ses forces. L'idée était d'enfoncer la lame entre les côtes de Jagang, puis de la faire remonter afin de déchiqueter des organes vitaux, voire le cœur lui-même, si elle avait un peu de chance. Hélas, l'inconfort de sa position l'empêcha de viser correctement.
Au lieu de s'enfoncer dans la chair, la lame percuta une côte. Kalan arma son bras pour délivrer un second coup. Vif comme l'éclair, Jagang lui saisit le poignet au vol et la fit tourner sur elle-même. Alors que le dos de la jeune femme se plaquait contre sa poitrine, il la désarma sans difficulté, puis lui serra plus fort la gorge afin de l'immobiliser. Refusant d'admettre sa défaite, Kalan flanqua un formidable coup de talon dans le tibia de son ennemi. Au cri qu'il poussa, elle comprit que l'attaque était douloureuse. Sans perdre de temps, elle enfonça son coude dans les côtes de l'empereur, juste à l'endroit où elle venait de le blesser. Jagang en sursauta de douleur. Consciente de tenir le bon bout, Kalan doubla son coup de coude en visant cette fois la mâchoire de Jagang. Elle fit mouche, mais ça ne suffit pas à abattre le taureau contre lequel elle luttait. En revanche, l'offense décupla sa rage. Prenant à pleine main le chemisier de Kalan pour l'empêcher de s'enfuir, Jagang lui expédia dans le ventre un direct assez puissant pour tuer un bœuf sur le coup. Plié en deux, le souffle coupé, la prisonnière tomba à genoux. Impitoyable, Jagang la prit par les cheveux puis la força à se relever. Si bizarre que cela paraisse, l'empereur souriait aux anges. Sa colère oubliée, il savourait à sa juste valeur un corps à corps comme il les aimait. Sauvage, sans merci, et largement déséquilibré en sa faveur.
« Tue-moi, qu'on en finisse !»
cria Kalan.
« Te tuer ! Quelle drôle d'idée ! Une fois morte, tu ne pourrais plus souffrir !» « Je te veux bien vivante afin de t'entendre hurler de douleur jour et nuit. »
Les deux sœurs n'avaient pas esquissé un geste pour tempérer la fureur de leur maître. En ce qui les concernait, elles pouvaient tailler la prisonnière en pièces, voire l'écorcher vive et la dévorer toute crue. Tant qu'ils s'occupaient d'elle, ils les laissaient en paix et c'était déjà ça de gagné. Jagang leva la main pour frapper de nouveau sa proie. Mais un flot de lumière pénétra soudain dans le pavillon, détournant son attention.
« Excellence !»
Un colosse venait d'ouvrir un des rabats latéraux, et il regardait son maître avec une répugnante révérence. Ce type était le clone des deux soudards que Kalan avait tués. À l'évidence, Jagang disposait d'une réserve inépuisable de bouchers et de bourreaux.
« Ouais, que se passe-t-il ?
Nous sommes prêts à démonter votre pavillon, Excellence. Navré de vous interrompre... « Mais vous avez demandé à être prévenu dès que ce serait le cas, en ajoutant que nous avions intérêt à faire vite. »
Jagang lâcha les cheveux de Kalan.
« Parfait, dépêchons-nous. »
Se retournant sans crier gare, il gifla la prisonnière, l'envoyant s'étaler sur le sol. Pendant qu'elle essayait de reprendre ses esprits, l'empereur posa une main sur sa blessure au torse, puis il l'écarta pour évaluer la gravité de la plaie. Apparemment rassuré, il essuya sa main sur le devant de son pantalon. À voir sa poitrine couturée de cicatrices, il n'était pas homme à s'inquiéter pour une égratignure.
« Faites en sorte qu'elle ne soit plus agressive !»
dit-il aux sœurs avant de franchir le rabat que le soudard tenait toujours écarté pour lui. Un torrent de feu se déversa du collier, passant dans tout le corps de Kalan. Malgré toute sa volonté de résister, elle hurla comme si on venait de la marquer au fer rouge. La souffrance ne parvint pourtant pas à occulter la haine qu'elle éprouvait pour les deux horribles femmes. Il était si facile de torturer une personne quand on exerçait sur elle un pouvoir absolu. Mais ça changerait peut-être un jour.
« Tu t'es comporté comme une idiote, j'en ai peur !»
lâcha froidement Ulysia. Incapable de parler tant elle souffrait, Kalan regretta de ne pas pouvoir dire qu'elle n'avait jamais agi plus intelligemment de sa vie. Quoi qu'il arrive maintenant, le jeu en aurait valu la chandelle. Tant qu'elle aurait un souffle de vie, ses chiens ne la forceraient pas à se soumettre. Désormais, lutter lui deviendrait aussi naturel que respirer.